France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT. Franchement, autant vous le dire, nous étions inquiets. Meeting de Marine Le Pen à midi, cortège syndicaux à partir de 14h, meeting d'Emmanuel Macron à 17h. Comment Jean-Pierre Pernaut a-t-il casé son sujet sur le muguet? On voit le décalage des politiques, faire des meetings le 1er mai, jour du muguet, n'importe quoi. Alors nous avons allumé TF1 à 13h, Jean-Pierre Pernaut allait-il faire face à l'offensive politique? Et on a été un peu rassurés, on l'écoute.
On évoquera bien sûr la fête du travail sur fond d'élection présidentielle cette année. Mais d'abord, le premier symbole de ce 1er mai, la tradition du muguet, qu'on peut acheter aujourd'hui au bord des routes ou dans les rues, du côté de Bordeaux, Grégoire Guistot et Julia Gardet.
Oui, c'est bon. Voilà, en ces temps instables, on trouve des repères où l'on peut. Et eux, ils cueillent le muguet de l'actualité tous les jours. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'essayiste et l'éditorialiste, notamment à Marianne, Caroline Forest, bonsoir.
Bonsoir.
Le chef d'entreprise et auteur du blog Salaud Patron, Julien Leclerc, bonsoir.
Bonsoir.
Je précise votre dernier livre. Alors, c'est assez rare en ce moment, mais ça s'appelle L'homme qui ne voulait pas être président. Voilà, ça n'existe plus. On le sait en ce moment. Et c'est publié chez Intervalle.
C'est ça.
Voilà, également Michel Hervois de Ouest France, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Mathieu.
Et François Lorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et quatre débats sur ce 1er mai, cette dernière semaine d'une campagne définitivement pas comme les autres. Les informés de France Info du 1er mai 2017, c'est parti. Et voilà, c'est parti avec un magnifique jingle. En tout cas, les dernières semaines de campagne, les deux candidats se sont livrés à un match de meeting. Emmanuel Macron était à la Villette et Marine Le Pen à Villepinte. Et Jean-Marie Le Pen, sous la statue de Jeanne d'Arc, de Front National pour le prix d'un. Le père a grillé la politesse à la fille avec son traditionnel rendez-vous du 1er mai avant midi. 300 personnes pour assister au naufrage d'un vieux monsieur, faut bien le dire. Problème de micro, feuilles envolées, chansonnettes gênantes. On était loin de la prise d'Orléans. Le FN Canal historique semble avoir connu son azincourt. Pendant ce temps, Emmanuel Macron rendait hommage à Brahim Bouaram, jeté à la Seine par des militants d'extrême droite en 1995. Quelques heures plus tard, le match commençait avec chaque candidat ses positions. On commence par Marine Le Pen à Villepinte.
Dans cette élection, vous le voyez bien, le système veut vous imposer son candidat. François Hollande veut vous imposer son poulain. Et le fantomatique Monsieur Fillon, son nouveau meilleur ami, qu'il dénommait il y a peu Emmanuel Hollande. Je lui demande une fois encore de nous dire la vérité et de dire à quelle sauce il veut manger les Français. Qui sera son Premier ministre? Combien de députés socialistes sortants seront investis par son mouvement aux législatives?
Ça c'est Marine Le Pen à Villepinte. Emmanuel Macron lui a à peu près répondu à la Villette cet après-midi. On l'écoute.
Face aux injures, face à l'obscénité du Front National, nous allons construire et nous allons refonder.
Voilà, on va parler dans un instant des deux candidats, mais juste avant, Caroline Forest, on a vu, j'en parlais tout à l'heure, de Jean-Marie Le Pen. C'est vrai qu'il a voulu faire sa petite réunion. Est-ce que c'est, finalement, c'est encore un intérêt aujourd'hui dans la vie politique française, Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui?
Oui, c'est un intérêt parce que tant qu'il tient et qu'il a la force physique de continuer à agiter en coulisses quand même un courant qui reste important au Front National, même s'il ne se voit pas sur les plateaux, même s'il n'est pas officiellement en campagne aux côtés de sa fille aujourd'hui, si Marine Le Pen se plante à cette élection, si elle fait un score qui est décevant au second tour, les règlements de compte seront terribles. D'abord, elle risque d'être rattrapée par toutes ces affaires d'insolvabilité. Elle risque d'être dans l'incapacité de se présenter pour 10 ans si les affaires notamment de sous-évaluation de son patrimoine la rattrapent. Donc derrière, ça veut dire que c'est une nuit des longs couteaux où Marion Maréchal Le Pen et Jean-Marie Le Pen reprennent la boutique familiale. Mmh. Donc ça compte encore. Maintenant, évidemment, la scène d'aujourd'hui n'était pas une scène de grande démonstration de force. Mais souvenez-vous, l'an dernier, il appelait Jeanne d'Arc au secours. Ouais. Bon, cette fois, il a été un tout petit peu plus discret pour pas gêner la campagne de sa fille. Mais dès le lendemain du second tour, ce sera vif chez les Le Pen.
Oui, pour vous, François Rossiva, c'est ce qui s'est joué aussi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu deux rassemblements, 300 personnes devant la statue de Jeanne d'Arc.
Oui, la proportion donne l'influence. Mais ce que je crois, c'est que c'est plutôt les petits couteaux désormais que les grands couteaux, et que Jean-Marie Le Pen aura conduit jusqu'au bout, une guérilla systématique à l'égard de sa fille.
Et pourtant, il appelle à voter Marine Le Pen, bien sûr, aujourd'hui. Il soutient sa fille.
Vous imaginez bien. Mais il aura tout fait, quand même. Les petites phrases la semaine dernière, les petites phrases maintenant. Et de ce point de vue-là, Bon, voilà, j'observe sans commenter plus alors.
Michel, on voit Marine Le Pen, on l'a entendu, a porté la charge contre Emmanuel Macron en parlant de candidat sortant, carrément, candidat sortant, car soutenu par François Hollande, l'héritier, vous savez, ce fameux argument. Est-ce que c'est un argument qui porte, d'après vous?
Alors, il peut porter selon qui est présent au meeting, par exemple. Aujourd'hui, c'était assez frappant. Il n'y avait que des anciens socialistes ou des socialistes actuels.
Au meeting d'Emmanuel Macron.
Donc, le qualifier d'héritier dans des moments comme ça, oui, ça peut le hollandiser un peu, le socialiser un peu. C'est pas forcément, de sa part à elle, à Marine Le Pen, je pense que c'est bien vu. Mais je réfléchissais en même temps à la question sur le nom de Le Pen. Il faut pas oublier qu'il y a un lien financier quand même, et un soutien. Et puis, le nom est important en positif ou en négatif. François Dorcival le rappelait tout à l'heure, il y a quand même eu la semaine dernière des choses impubliables de prononcer sur l'homosexualité au moment de l'hommage aux policiers tués aux Champs-Élysées. Marine Le Pen était folle de rage quand elle a et ne savait pas comment se détacher de ça. Et vous avez remarqué que son nom, le nom Le Pen, ne figure pas sur les affiches, ne figure pas sur les programmes, et elle s'appelle Marine. Donc il y a vraiment cette volonté de démarquage jusqu'au bout. Et qui n'est pas terminé, à mon avis.
Karine Forest, je voyais juste opiner du chef sur le côté, c'est pas...
Bien sûr, mais c'est un processus de marketing politique évident pour essayer d'élargir sa base, mais son nom, elle continue de le porter. Demain, son père sera toujours son père. Celui qui a fait un chèque pour sa campagne, c'est pas seulement des banques russes, c'est aussi son père qui lui a prêté l'argent pour cette campagne. Et encore une fois, dans cette famille, on fait de la politique, on a beaucoup d'immobilier en commun, il y a beaucoup de choses en commun, on vit de la politique ensemble. Donc s'il y a des moments où il faut s'effacer, se faire la guerre, s'engueuler, se disputer pour gagner plus de voix, faire marcher la boutique. Ensuite, la boutique, il faut bien se la partager. Et donc, demain, il y aura un moment très désagréable, surtout pour Florian Philippot, qui sera sans doute le sacrifié pour que la famille puisse se réconcilier, comme c'est toujours le cas. La famille Le Pen s'est plusieurs fois déchirée. Souvenez-vous au moment de la fronde contre les maigrettistes, des maigrettistes. Mais ensuite, on sacrifie ceux qui ne sont pas de la famille et on se réconcilie.
Allez, on va continuer à parler de ces meetings dans un instant. L'info à 20h10, c'est Stéphane Milhomme.
Les réponses d'Emmanuel Macron à la Villette après les attaques de Marine Le Pen. Face aux injures et à l'obscénité du Front National, dit-il, nous allons refonder le pays. Le candidat En Marche dit surtout respecter ceux qui votent pour lui, mais combattront son projet. Marine Le Pen à Villepinte a critiqué le candidat En Marche en paraphrasant François Hollande. Faites barrage à la finance qui a cette fois un nom, Macron. La candidate Front National est apparue aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan, à qui elle promet toujours Matignon en cas de victoire. Les manifestations du 1er mai, synonyme de rassemblement contre le Front National. Des incidents ont éclaté en marge du cortège parisien, avec au moins 4 CRS blessés, dont 2 gravement, par une dizaine d'individus. Il y a maintenant 5 interpellations. Du côté participation, les chiffres vont de 30 000 à 80 000 personnes pour Paris, 142 000 en France, selon le ministère de l'Intérieur. La CGT en compte le double. Une manifestation géante à Moscou. Près d'1,5 million de Russes ont défilé aujourd'hui dans le centre de la capitale pour la fête du travail, une affluence bien plus importante que les années précédentes, selon la police russe, avec parfois des slogans hostiles au gouvernement. Et puis direction l'espace et ce lancement réussi pour SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk a réussi à placer en orbite son premier satellite militaire américain, un cargo classé secret défense, un succès puisque SpaceX a réussi à faire atterrir le premier étage de sa fusée, elle pourra donc à nouveau servir.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons des deux meetings contenus, les deux candidats pour le second tour. Il y a beaucoup de deux dans cette phrase. Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Julien Leclerc, Marine Le Pen, on l'a entendu, a parlé donc d'Emmanuel Macron comme donc l'héritier de François Hollande. Elle a repris la tirade de François Hollande sur la finance, celle du Bourget, pour dire que cette fois-ci, la finance avait un visage, c'était Emmanuel Macron. Pour vous, ça, c'est des arguments qui peuvent toucher au-delà du cercle Front National, au-delà de la droite, même peut-être justement ce qu'elle vise aujourd'hui, c'est-à-dire les insoumis. Jean-Luc Mélenchon.
L'électorat de gauche, bien sûr, ça touche, évidemment. François Hollande, on lui a beaucoup reproché d'être mou. Il a eu un surnom assez populaire, notamment dans l'électorat de droite, qui était Flambie.
Flambie.
Est-ce que vous pensez vraiment que Flamby, en 3 ans, il serait passé de rien, de parfait inconnu, ce qu'était Emmanuel Macron il y a 3 ans, à vainqueur du premier tour des présidentielles? Donc je pense que cet argument factuel, hein. Je suis pas dans l'affectif, je suis dans le factuel. En 3 ans, Macron est passé de rien à favori des sondages pour la présidentielle, montre qu'il y a un petit peu plus d'énergie que ça. Ce qui est très fort dans ce qu'a réussi à faire Marine Le Pen, et c'est vraiment dommage qu'Emmanuel Macron la laisse faire ça, c'est qu'elle fait de Macron le candidat du système, alors qu'Emmanuel Macron, il vient de nulle part. Il a pas de passé politique. C'est une politique professionnelle depuis plus de 20 ans, dans un parti qui est vieux comme le monde, dont l'histoire est un tout petit peu compliquée, et gangrénée par des propos souvent xénophobes et violents. Et aujourd'hui, elle arrive à nous faire croire que quelqu'un qui, lui, n'a aucune casserole juridique aux fesses, pardon, est le candidat du système.
Vous savez ce que dit le Front National, on voit très bien, elle a encore expliqué hier Marine Le Pen, c'est tous les gens qui soutiennent aujourd'hui Emmanuel Macron prouvent, selon eux, qu'il serait du système. C'est ça l'argument de Marine Le Pen.
Oui, je dois dire que dans leur échange, qui était assez typique, elle dit « faisons barrage à la finance » et c'est évidemment une allusion au fameux discours du Bourget de François Hollande. Et lui, il a répondu en attaquant les agents de l'anti-France. Ce qui est, alors l'anti-France, c'est vraiment du langage de l'extrême droite classique depuis toujours pour désigner leurs adversaires. Bon, donc ça, c'était dans leur échange, et ça n'est que un élément de cet échange. Alors là-dessus, est-ce que le fait de renvoyer Macron au système est évident pour Marine Le Pen? Bien sûr, mais évidemment, puisque sa carrière n'est peut-être pas politique, mais enfin, il a quand même été 2 ans ministre, 2 ans secrétaire général adjoint de l'Élysée. Donc, il a été auprès de François Hollande pour y faire une politique. Et il a défendu une politique au Palais Bourbon. On ne peut pas dire qu'il est étranger à tout ça.
Et Marine Le Pen élue aussi au Parlement européen. Donc
mais
aussi,
naturellement, voilà, bien sûr.
La famille tout ça, c'est le système, alors, finalement.
Oui, mais bien entendu, c'est le système.
Et surtout, est-ce qu'on peut... Vraiment, il faut interroger ce mot « système ». Toute personne qui commente la vie politique ne devrait pas laisser passer ce terme, qui est une arnaque complète, qui permet ces mots valises, sont des mots poisons, qui permettent à n'importe quel
cette
candidat
campagne,
de dire...
on est rempli de mots poisons et de mots valises.
Mais celui-là est peut-être le pire, parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par système? Est-ce qu'on est en train de parler de la démocratie représentative à scrutin majoritaire à 2 tours, qui a été pensée par la Ve République, qui a été pensée par le général de Gaulle, qui est issue de notre après-guerre? Si c'est ça le système, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut plutôt le défendre.
Alors, encore une fois, je reprends juste l'argument de Marine Le Pen hier sur TF1, c'était le système, c'est tous les gens, je vais vous dire, c'est très simple, c'est tous ceux qui sont contre le peuple. C'est son argument aujourd'hui,
c'est ça.
Est-ce qu'on est devenu un pays aussi bête qu'on peut se faire avoir par des phrases qui sont dignes des démocraties populaires au mieux? Je veux dire, évoquer le peuple contre le système, c'est quand même s'adresser à des citoyens comme à des enfants et leur raconter une comptine. Dans cette comptine, ce que Marine Le Pen effectivement oublie de dire, c'est que d'abord, elle fait effectivement partie de la caricature de ces politiciens qui vivent de la politique, qui n'a jamais su faire autre chose. Quand Marine Le Pen a essayé d'être avocate, elle a essayé pendant 2 ans de gagner sa vie par elle-même. Son père lui a proposé, elle gagnait pas assez d'argent par rapport à son train de vie, qui, il faut le rappeler, est très élevé. Marine Le Pen regardait ses images de campagne en 95, quand elle se présente dans le 17e arrondissement de Paris, elle n'a pas du tout le phrasé, ni l'accent populaire qu'on lui connaît aujourd'hui pour parler aux ouvriers. Elle a un accent bourgeois du 16e arrondissement à couper au couteau. Et donc cette Marine Le Pen-là, quand son père lui a dit « je t'offre 30 000 francs par mois pour un 2/3 de temps à la permanence juridique du Front National », elle a été ravie, elle a accepté l'offre et depuis elle vit de la politique. Mais sur le fond, ce que propose Emmanuel Macron, c'est vrai que c'est plus bouleversant. C'est vrai qu'à la fois, c'est évidemment la poursuite de quelque chose qui peut ressembler à François Hollande avec l'énergie d'un Nicolas Sarkozy. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose. Par contre, du point de vue institutionnel, il est en train d'obliger les partis politiques à totalement imploser et à se redéfinir. Est-ce que ce sera sur la base des personnes ou sur la base des idées? C'est ça qui reste...
Julien Leclerc.
Emmanuel Macron a autant de soutien à gauche qu'à droite. Donc le politiser tel que dans l'ancien système ou dans les anciens clivages gauche-droite, c'est ce dont il ne veut plus. Et je pense que c'est assez compliqué. Donc j'ai du mal à comprendre le procès qu'on lui fait d'être trop à gauche et d'être l'héritier de François Hollande, alors qu'on a passé 3 ans quand il était au gouvernement à dire qu'il était trop de droite pour ce gouvernement. C'est quelqu'un qui a des valeurs sociales et sociétales fortes, il le dit, il l'explique. Donc quand on parle de candidat but du peuple, il a quand même commencé son mouvement politique En Marche par aller dans la rue, créer des débats citoyens avec des gens qui venaient de tous les horizons, sans regarder d'où ils venaient, j'y étais, donc je peux en parler, C'était hyper intéressant comme démarche démocratique. Donc il a commencé par aller prendre le pouls et demander au peuple ce qu'il attendait. Il a quand même nourri son programme
d'une partie
de ces
échanges-là. Mais Julien, c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir comment réunir. C'est la fameuse phrase « comment on réunit de Robert Hue à Alain Madelin ». Vous voyez, c'est ça. Enfin voilà,
parce
il y a un moment...
Il les réunit pas, d'ailleurs.
Il dépasse les clivages. C'est quelqu'un qui dérange. Et c'est pour ça qu'on lui reproche à la fois d'être le candidat de la grande finance, donc trop à droite, et d'être un candidat trop à gauche, parce qu'il dépasse les clivages.
La grande finance, c'est pas nécessairement trop à droite.
Alors,
oui, voilà. On parle de la gauche, on reproche d'être trop à droite.
Alors justement, je voudrais qu'on parle justement juste d'Emmanuel Macron, Michel Hurvoy, sur son meeting. On l'a vu aujourd'hui, Emmanuel Macron ne parle plus son programme. Il avance sur les valeurs aujourd'hui. D'ailleurs, le slogan qu'il y avait derrière lui, c'était « Ensemble, la République ». Donc aujourd'hui, c'est ça, il veut rassembler. Est-ce que pour vous, c'est réussi comme opération ?
Je n'ai pas trouvé excellentissime dans ce meeting. J'ai trouvé un peu en dedans, un peu en deçà. Un peu distant par rapport à un texte qu'il s'est un peu contenté de lire, enfin la plupart du temps. Donc il ne s'est pas vraiment déboutonné, passionné, libéré. Et vous observerez que Marine Le Pen n'a pas non plus du tout parlé de son projet à elle.
Non.
C'est-à-dire qu'on ne parle plus de l'Europe, on ne parle plus de l'euro, on ne parle plus de...
C'est compliqué pour le Front National, l'euro,
voilà,
en ce moment.
Et donc là, je pense qu'on est sur tout à fait autre chose, parce qu'on est dans la dernière phase de la campagne, et maintenant c'est une affaire, je pense, de message de l'une pour essayer de séduire à la fois, élargir son camp et même séduire à l'opposé de son camp, donc dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, et on a la même volonté, mais alors là plus de rassembler chez Emmanuel Macron sur des valeurs, sur la conviction qu'on va faire ensemble, sur la méthode.
Le sentiment que j'ai eu en les écoutant l'un comme l'autre, c'était de l'entraînement. C'était de l'entraînement. Et de l'entraînement au débat, naturellement, de mercredi soir.
Ils ont rodé
tout ce qu'ils pourraient se balancer au cours de ce débat. C'est-à-dire préparer des munitions, préparer les répliques. Parce que effectivement, on leur posera des questions sur leur programme, sur leur projet, etc. Mais il faut être à tout moment prêt à la réplique. Et des répliques, on en a eu quand même quelques-unes aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment de l'entraînement à leur émission face à face.
Alors, on va continuer à parler d'Emmanuel Macron et la République. Dans un instant, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron offensif ce soir à la Villette devant 12 000 sympathisants et après les attaques de Marine Le Pen. Il se veut le plus rassembleur possible et tente de convaincre ceux qui sont tentés par le Front National. Le FN, dit-il, ne mérite pas votre indignation, votre désarroi, il les exploite. Marine Le Pen en meeting à Villepinte fustige, elle, le candidat En Marche. Elle considère qu'il se comporte comme un winner autoproclamé. La candidate Front National confirme que Nicolas Dupont-Aignan sera bien à Matignon en cas de victoire. Le bilan des manifestations du 1er mai en France, 142 000 participants selon le ministre de l'Intérieur, le double selon la CGT, 30 000 à 80 000 personnes rassemblées à Paris, des incidents en marge de la manifestation parisienne du 1er mai, il y a déjà 5 interpellations, le bilan est passé à 4 CRS blessés, dont 2 gravement, par une dizaine d'individus en marge donc du cortège des manifestants. Le Hamas modifie pour la première fois de son histoire son programme politique. Le mouvement palestinien accepte notamment un État palestinien limité aux frontières de 1967. Ce soir, dans un texte en anglais, il insiste sur le caractère politique et non religieux de son conflit avec Israël. En assouplissant sa doctrine avec l'État hébreu, le Hamas veut également améliorer ses relations avec les pays arabes du Golfe. Et puis la tombe de Romy Schneider profanée en région parisienne. L'actrice décédée en 82 repose dans le cimetière de Boissy-Saint-Avoir. Une personne a remarqué ce matin que le caveau avait été ouvert sans autre dommage apparent. Les gendarmes sont chargés de l'enquête.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Caroline Fourest, éditorialiste et essayiste de Son État, le chef d'entreprise Julien Leclerc, Michel Hurvoy de Ouest France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Donc 3 heures plus tard après Marine Le Pen, il y a eu Emmanuel Macron qui était à la Villette. Derrière lui, donc on l'a dit, un immense slogan, Ensemble la République, et des jeunes avec des drapeaux français. Et c'est assez étonnant, comme chez Macron, tous les jeunes à ces meetings ont des t-shirts jaunes, roses ou blancs. Alors des couleurs dignes d'un feuilleton AB Productions, voilà, c'est une référence culturelle comme une autre. Fini donc les programmes pour le candidat En Marche, désormais, il parle des valeurs. Caroline Fourest, quand Emmanuel Macron parle de la République, pour vous, est-ce que finalement, il vous séduit ou c'est quelque chose de rajouter rapidement à son programme parce qu'aujourd'hui, il est face au Front National ?
Il est temps qu'il rattrape hein, dans ce domaine. Depuis le début de cette campagne, il est très faible sur ces questions, Emmanuel Macron. Et dans la perspective d'un face-à-face possible avec Marine Le Pen, c'était d'autant plus angoissant qu'il mette autant de temps à s'y intéresser. Là, il a fait le service minimum. Il commence à intégrer qu'effectivement, il faut rappeler notamment un point de son programme qui est intéressant et qu'il n'a pas du tout mis en valeur jusque-là. Il va être obligé de le dégainer, notamment parce que le Front National attaque beaucoup par rapport au fait que l'UOIF est appelé à voter pour lui. Évidemment, il n'y est pour rien, mais le Front National va essayer d'exploiter ça au maximum. Il a rappelé, par exemple, que dans son programme, il est marqué qu'il démantèlera toute organisation qui, sous couvert de religion, s'attaque à la République. Mais c'est bien, mais c'est très léger, honnêtement. Au milieu d'un discours, moi, je ne fais pas partie de ceux qu'il a jamais fait vibrer d'une façon ou d'une autre, donc je note que oui, il commence à se dire qu'il faut parler de ces questions-là. Je note qu'il a fait beaucoup appel aux valeurs. Il a une phrase très drôle en réponse à Marine Le Pen en disant, elle dit que c'est En Marche ou crève. Eh bien oui, En Marche, c'est nous. Ça, c'était assez drôle. Ouais. Pour le reste, dans le débat du 3 mai, je suis d'accord avec François Dorcival, c'était une répétition. Si c'est une répétition, ça va pas suffire.
Ouais.
Face à Marine Le Pen qui va venir le chercher au mollet sur la question de l'UOIF, sur la question de ses représentants, un peu comme au moment du Modem, choisissent entre Autrier, elle va être extrêmement offensive. Et là, peut-être qu'il va se révéler, peut-être qu'il va montrer un visage dont il est capable, un peu plus ferme sur les questions de République.
On voit Emmanuel Macron faire beaucoup référence à l'histoire en ce moment. François Dorcival, vendredi au mémorial de la Shoah. On l'a vu à Oradour-sur-Glane. Aujourd'hui, bien sûr, alors c'est une histoire très récente, rendre hommage à Brahim Bouaram qui avait été assassiné en 1995. C'est quand même aussi des gestes et on sait qu'il veut toujours rappeler l'histoire par rapport à certaines déclarations du Front National.
Oui. Cette année, il fait plus appel à la mémoire qu'à l'histoire. L'année dernière, je rappelle que l'un de ses tout premiers discours, il y a un an, était à Orléans pour Jeanne d'Arc. Et ça, c'était un discours sur l'histoire, en effet. Là, il fait appel à la mémoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en allant à Oradour-sur-Glane, comme devant le mémorial de la Shoah, comme avec le Marocain assassiné en 95, tout ça est destiné à une argumentation politique. Évidemment. S'il s'agissait de parler d'histoire, alors il faudrait reprendre le discours de l'année dernière. Il faudrait reprendre l'enseignement nécessaire de l'histoire. De l'enseignement de la Shoah, il n'en parle pas. Il s'incline, il témoigne en quelque sorte. Et donc, il y a beaucoup de manques dans ce domaine qui mériterait d'être approfondi de sa part. C'est-à-dire de lui donner plus qu'une signification, simplement, contre le Front National.
Julien Leclerc, quand vous voyez ça, finalement, on le voit très bien aujourd'hui, j'en parlais, Emmanuel Macron fait référence, bien sûr, à la République. On le voit bien, mais comme Marine Le Pen, aujourd'hui, ne cible qu'Emmanuel Macron, ne développe pas son programme, ça veut dire qu'on l'a souvent reproché à cette campagne électorale de ne pas avoir de discussion suffisante sur les programmes. Ça risque pas d'être le cas non plus mercredi.
Ça va être malheureusement, je pense, le cas, parce que le Front National n'a aucun intérêt à aller sur le programme, puisqu'elle vient de perdre quand même, de son propre aveu, à peu près 70% de son programme, puisqu'elle ne souhaite visiblement plus sortir de l'Union européenne. Et c'est assez drôle d'ailleurs là, sur à ce sujet-là, ça fait quand même 20 ans que Marine Le Pen fait de la politique, 20 ans qu'elle nous explique que l'euro est le diable.
Pas tout à fait 20 ans, puisque l'euro...
98.
Pas 20 ans
non, mais on savait déjà en 98...
Déjà l'écu, alors, on va dire.
Donc ça fait 19 ans que Marine Le Pen nous explique que l'euro est le diable. Et je dois lui reconnaître quelque chose, c'est qu'elle a une certaine force de conviction. Donc on peut se dire, tiens, elle va réussir à convaincre nos partenaires européens. Elle passe une heure avec Dupont-Aignan, elle sort de là, et finalement, on sort plus de l'euro, l'euro n'est plus le diable. Donc je me dis que si elle n'arrive pas à convaincre Dupont-Aignan, dont on conviendra tous ensemble que c'est pas le mec le plus agressif du monde, je la vois mal convaincre Merkel de nous laisser garder l'euro, mais pas trop, mais un peu, enfin peut-être que si, peut-être que non.
On va en parler dans un instant de Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est vrai que Michel Leroy, là, il y a eu au sein du Front National sur l'euro, ça a été d'une complexité à comprendre pour tout le week-end, les positions entre Marion Maréchal Le Pen, Florent Philippot, Marine Le Pen elle-même, c'est très compliqué ces histoires de, on garde, il y a une monnaie nationale, on garde l'euro, pas d'euro, pas de monnaie nationale, enfin on sait plus.
C'est compliqué si on n'y réfléchit pas deux minutes, mais c'est assez vite vu au fond.
Oui.
Donc on voit bien qu'il n'est pas possible. Enfin, vous imaginez, je ne sais pas, des États américains adopter une monnaie différente du dollar. Trump n'a même pas eu cette idée-là. Donc je pense que la réponse, elle est toute faite. C'est pas imaginable qu'une entreprise achète, par exemple, des éléments, des composants d'une production française en euros et revende l'appareil terminé en France, serait payé en francs, on achèterait Enfin, c'est compliqué.
C'est un casse-tête.
Mais c'est assez facile d'expliquer que c'est compliqué. Donc j'imagine que Emmanuel Macron après-demain soir va quand même revenir lui sur le projet. C'est son intérêt. Donc je pense qu'il sera question du projet.
François, on va justement on parle de l'euro. Non, attendez Michel, je vous assure, on va parler de l'euro. Ça va être formidable. Vous allez voir, ça va être fantastique.
On va parler de l'euro.
On va parler de Nicolas Dupont-Aignan, de Jean-Luc Mélenchon, des syndicats. Bref, oh là là, il y a une parade qui arrive dans les informés de France Info. C'est incroyable. On revient dans quelques minutes, tout simplement.
Vendredi 5 mai, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Nico Franck dans un programme entièrement consacré à Ravel. Trois œuvres empreintes de mythologie, d'enfance et d'Orient. Les deux suites de Daphnis et Chloé, Ma mère Loi et Scheherazade avec la mezzo-soprano Alissa Kolosova. Vendredi 5 mai à 20h dans l'auditorium de Radio France. Réservation maisondelaradio.fr.
Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. Franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux.
France Info. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore arrosé demain, ce sera de la pluie du sud-ouest vers le massif central, le centre, la Bourgogne, le bassin parisien le matin. On aura quelques averses sur le nord-ouest. Et puis entre les Hauts-de-France, le nord-est, la région PACA, on trouvera de belles éclaircies, une rare averse. Il fera 2 à 7 degrés, un peu plus de l'Aquitaine à la Méditerranée, 6 à 10. L'après-midi, il pleuvra du sud-ouest vers le sud des Alpes, parfois de manière soutenue sur le nord de Midi-Pyrénées. Il restera du soleil en Corse avec du vent. Entre le Limousin, le nord des Alpes, la Bourgogne, la Franche-Comté, de bonnes averses orageuses, moins d'averses, un peu plus d'éclaircies en remontant vers l'Île-de-France, le nord de la Seine, l'Alsace, et puis retour au sec du Cotentin et de la Bretagne à la Charente avec de belles périodes de soleil. Il fera 11 degrés à Aurillac, 14 à Bourges, à Lyon, 16 à Lille, Paris, Strasbourg ou Bordeaux, 17 à Nantes et à Nîmes et 20 degrés à Ajaccio.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Le 1er mai, des cortèges en ordre dispersés une fois encore. Tonalité forte politique, évidemment, à 6 jours du second tour de la présidentielle. 142 000 personnes au total dénombrées par le ministère de l'Intérieur. Le double pour la CGT. À Paris, des incidents ont eu lieu en marge du cortège. Bilan, 6 policiers blessés et 5 personnes arrêtées. Dernier meeting également pour les finalistes de la présidentielle. Emmanuel Macron était à la Villette à Paris face aux injures et à l'obscénité du Front National. Nous allons refonder le pays, a promis le candidat d'En Marche devant plusieurs milliers de personnes, s'engageant à recevoir tous les syndicats et le patronat s'il est élu dimanche prochain pour mener la transformation du pays. Emmanuel Macron qui refuse en revanche de retirer sa réforme du droit du travail comme le lui demande Jean-Luc Mélenchon. Ce midi, Marine Le Pen était en meeting à Villepinte près de Paris, la candidate du Front National qui s'est d'abord adressée à Nicolas Dupont-Aignan, le remerciant de son soutien. Puis elle s'en est prise à Emmanuel Macron, son adversaire de dimanche prochain.
Dans cette élection, vous le voyez bien, le système veut vous imposer son candidat. François Hollande veut vous imposer son poulain. Alors notre rôle, c'est aussi de dire la vérité aux Français. Monsieur Macron, c'est le candidat de la continuité. D'une continuité morbide, dont le chemin est parsemé des cadavres des emplois délocalisés, des ruines des entreprises en faillite et du trou sans fond des déficits et de la dette. Monsieur Macron est soutenu tous les jours par Monsieur Hollande, qui ne cesse d'appeler à voter pour lui, parfois plusieurs fois par jour. Depuis le mois de décembre, les Français pensaient s'être débarrassés de François Hollande. Ce président si détesté du peuple français, ce président qui a mis la France en échec, ce président qui n'a jamais présidé pour le peuple. Il l'avait vu partir par la porte, et le voici qui revient par la fenêtre.
Marine Le Pen, la candidate du Front National en meeting ce midi à Villepinte. Et puis, on parlait du 1er mai, immense manifestation à Moscou sous un ciel radieux. Près d'1,5 million de Russes ont défilé dans le centre de la capitale pour la fête du travail. C'est 10 à 15 fois plus que les années précédentes. La tombe de Romy Schneider au cimetière de Boissy-sans-Avoir dans les Yvelines a été profanée. La sépulture de l'actrice a été ouverte vraisemblablement au cours du week-end. Une enquête a été confiée à la gendarmerie. La consultation chez les généralistes, elle passe à 25 €. Cela faisait plus de 6 ans qu'elle n'avait pas bougé. Les syndicats de médecins dénoncent pourtant une hausse de 2 € insuffisante pour relancer les vocations. Ils disent attendre du prochain chef de l'État qu'il redonne toute sa place à la médecine libérale. Fin de citation. 20h33 sur France Info. Les informés, suite et fin.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils ne disent jamais non à l'actualité, surtout un jour férié, c'est magnifique. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent l'éditorialiste et essayiste Caroline Fourest, le chef d'entreprise Julien Leclerc, Michel Hervois de Ouest France et François Dorcival de Valeurs Actuelles. Une Marine Le Pen, meilleure alliée de l'UMP et du PS. Je n'ai aucune raison de partir dans un patriotisme d'excès. Le Front National, meilleur allié du système. Nicolas Dupont-Aignan a-t-il pensé à ses anciennes déclarations en montant ce midi à la tribune en première partie du meeting de Marine Le Pen à Villepinte ? Peut-être, en tout cas, celui qui pourrait être Premier ministre, en cas de victoire de la candidate d'extrême droite, a rappelé les raisons de son ralliement. Il veut rassembler les patriotes tout en divisant son propre parti. Bon, c'est un calcul assez étrange. Nicolas Dupont-Aignan s'est-il lancé dans une aventure personnelle ou servira-t-il de modèle à d'autres élus de droite ? En tout cas, lui a choisi Nicolas Dupont-Aignan.
Entre la finance et la France, il faut choisir. Est-ce que vous connaissez la réponse ? J'ai donc choisi la France, j'ai choisi Marine.
Voilà, Nicolas Dupont-Aignan en chauffeur de salle. François Orcival, qu'est-ce qu'il va chercher Nicolas Dupont-Aignan avec Marine Le Pen ?
Il vient chercher plusieurs choses. La première, c'est de constituer un groupe à l'Assemblée nationale qui sera élue les 11 et 18 juin et qui lui permettrait de jouer un rôle. Parce que, malheureusement, il faut bien convenir que depuis des années, il cherche à jouer un rôle et n'y parvenait pas. Mmh. Il en a trouvé un en dénonçant, en critiquant, en attaquant tout le temps François Fillon durant cette campagne. Et on a compris maintenant à quoi ça servait. Ça servait à deux choses. Effectivement, il a fait basculer 1 million de voix qui ont manqué à Fillon pour être disqualifiés. Et de sa faute, il a été disqualifié, de la faute de ses électeurs. Et à partir de là, rallier Marine Le Pen, évidemment, ça constitue pour lui, certes, un pari dans sa circonscription, son environnement et tout, mais de bonnes cartes pour Marine Le Pen qui sort de son isolement. Elle sort de son isolement et lui de sa marginalisation. Donc voilà un peu la stratégie qui était la sienne.
Michel Hervois, il s'est vexé ce matin, il était interviewé par Jean-Jacques Bourdin quand Emmanuel Macron dit qu'il va avec Marine Le Pen pour des histoires financières par rapport à son remboursement, puisqu'il a fait 4,75%, il n'a pas fait les 5% pour être remboursé. Bon, on peut imaginer, hein, je ne sais pas, hein, mais on peut imaginer qu'il peut y avoir un peu de tout ça. Il y a le côté électoral, il y a le côté parlementaire, et puis il y a le côté peut-être financier qui peut être intéressant.
Alors, je ne sais pas s'il y a un aspect financier lié directement à la campagne pour la présidentielle, parce que je crois que son financement était bouclé. En revanche, il y a un aspect financier lié aux législatives, puisque chaque voix rapporte 1,25 € par an pendant 5 ans. Donc, effectivement, ça peut permettre de vivre un peu plus. Je suis d'accord aussi avec la notation de François Dorcival sur l'objectif de constituer, d'être le chef, en fait, d'une opposition de droite à l'Assemblée nationale. Et on est en train on a la même tentative symétriquement avec Jean-Luc Mélenchon ou des gens, en tout cas des insoumis, leur stratégie c'est de ne rien lâcher avant le second tour, c'est de préserver le capital pour, dans l'espoir co-législative, de faire un score et d'avoir une opposition de la vraie gauche, comme ils disent. Donc, et on a un peu l'impression que d'une espèce de quadripartisme où on était dans la présidentielle, je me demande si on n'est pas en train de se regrouper autour de trois pôles, enfin, version parlementaire.
Julien Leclerc, quand on voit finalement Nicolas Dupont-Aignan qui critiquait Marine Le Pen, le Front National, jamais je m'allierai avec eux, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec eux sur certains points, et notamment sur l'euro, quand vous voyez aujourd'hui cette alliance.
Ça fait rêver quand même. Nicolas de Montaigne, Premier ministre, il faut le dire, ça fait rêver. J'ai toujours pensé que c'était quelqu'un... J'ai une image de lui, il y a quelques années, il a organisé une manif sur une autoroute, il a annoncé qu'il bloquerait un péage, puis finalement, il a bloqué une voie de télépéage sur 8, puis il est resté 10 minutes, et quand la police est arrivée, il a dit « Non, non, mais vous inquiétez pas, on veut pas gêner. » J'ai toujours pensé qu'il manquait de courage. Je dois reconnaître que là, il devient Premier ministre potentiel, donc c'est quand même assez fort. Il est l'homme qui, finalement, aura réussi à faire abandonner Marine Le Pen sa haine de l'Europe et qui aura convaincu Marine Le Pen en une heure de ne plus sortir de l'Union européenne. Donc peut-être que finalement, il est plus fort que ce que je pensais.
Caroline Forest, est-ce que aussi il a réussi, alors c'est ça la question, est-ce que c'est un aventurier finalement tout seul, Dupont-Aignan, ou est-ce qu'il peut décomplexer certains élus peut-être de droite tentés, à votre avis, d'aller vers le Front National où il n'a pas plus d'influence que ça, d'après vous?
Alors d'abord, ce qui est sûr, c'est que le moteur d'un certain nombre d'acteurs qui sont en train de recomposer la vie politique est avant tout le Narcisse Roy. Enfin, je veux dire, on a affaire à des gens qui ont un égo mais boursouflé comme on l'avait quand même jamais vu. C'est un concours. Et Nicolas Dupont-Aignan est très bien placé à ce jeu-là, il faut bien l'avouer. Mais il a eu, avec ce moteur très personnel, François Dorcival le disait, un double impact déjà terrible, parce que quand même, François Fillon lui doit en partie sa défaite. Il la doit beaucoup à lui-même, mais il la doit aussi à Nicolas Dupont-Aignan. Et en plus, ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire mettre le fait de revendiquer l'héritage du général de Gaulle à ce point-là dans le caniveau d'un parti qui a été créé par des gens qui étaient ou admirateurs de la France de Vichy ou de l'OAS, c'est-à-dire en tout cas unis par une haine du général de Gaulle absolue et viscérale, c'est quand même vraiment avoir eu un impact terrible sur l'histoire des idées et l'histoire de ce pays. Et puis, il faut quand même toujours se méfier des gens qui ont des mots aussi caricaturaux, aussi excessifs. Tout le langage de Nicolas Dupont-Aignan est une succession de punchlines démagogues, uniquement destinées à se mettre en valeur personnellement au détriment du reste de la classe politique. À un moment donné, tout se voit. Et ce qui se voit notamment, c'est que ceux qui veulent en permanence cracher sur les autres sont souvent ceux qui sont les pires caricatures de politiciens. En l'occurrence, le petit deal qu'il vient de former et de faire avec Marine Le Pen, c'est un petit deal politicien le plus caricatural qui soit.
Tout ce qu'ils disent qu'ils ne feront pas et tout ce qu'ils disent détester
voilà,
viennent
si
de
les autres le font, c'est le signe que c'est un système de pourris, d'opportunistes. Quand c'est eux qui le font, c'est superbe, c'est l'honneur, c'est magnifique, c'est du courage.
Oui, Jean-Mathieu Pernard rappelait tout à l'heure les attaques de Dupont-Aignan contre Marine Le Pen et contre le FN. Il en a oublié parce que j'en avais noté deux ou trois. Un saut sans parachute, le
c'est
FN.
C'est ça.
C'est ce qu'il disait. Le FN n'est pas apte à gouverner. C'est pas vieux tout ça. Hein.
Sauf lui.
Oui, mais lui, oui.
Le meilleur allié du système.
Juste rapidement, j'ai une question, François Orcival, pour vous, justement, cette bascule. Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan a pu décomplexer, à votre avis, certains élus de droite, pour tendre une main au Front National?
Ce qui est sûr, c'est que tant Emmanuel Macron que Marine Le Pen veulent l'explosion de la droite qui était représentée par François Fillon. Voilà, ça c'est leur objectif. Et cet objectif...
Des deux grands partis, je pense. Même.
Absolument. Oui, c'est vrai aussi pour la gauche. Mais Marine Le Pen, à gauche, elle ne joue pas un grand rôle. En revanche, pour Emmanuel Macron, c'est la disparition de la droite. Et comme pour Marine Le Pen. Et effectivement, dans cette opération, Dupont-Aignan joue un rôle clé.
Allez, dans un instant, on va parler de la gauche et notamment de Jean-Luc Mélenchon. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Les manifestations du 1er mai, synonyme de rassemblement contre le Front National. Les chiffres vont de 30 000 à 80 000 personnes à Paris, 142 000 en France, selon le ministère de l'Intérieur, 280 000 pour la CGT. Des incidents ont éclaté en marge du cortège parisien, avec maintenant 6 policiers blessés. L'un d'eux souffre même de graves brûlures au niveau du visage et d'une main. 5 interpellations et de nombreuses dégradations sont également signalées. Emmanuel Macron répond en meeting à la Villette aux attaques de Marine Le Pen. Les cadeaux du FN sont des mensonges. Jamais ils ne financent, jamais ils n'expliquent. Il y aura un cocu dans l'histoire. Le candidat En Marche répond aussi à Jean-Luc Mélenchon. Il refuse de retirer sa réforme du droit du travail de son programme électoral. Un hommage appuyé à Nicolas Dupont-Aignan. Beaucoup d'attaques à l'encontre d'Emmanuel Macron. La candidate Front National était, elle, en meeting à la mi-journée à Villepinte. Marine Le Pen a martelé que Dupont-Aignan deviendrait son Premier ministre en cas de victoire. Près d'1,5 million de Russes ont défilé dans le centre de Moscou pour la fête du travail. Certains étaient même rassemblés contre le gouvernement. En Espagne, des milliers de personnes ont manifesté à Madrid contre la corruption. En Turquie, au moins 165 personnes interpellées, les trois quarts à Istanbul après la manifestation interdite contre le pouvoir. Et puis, depuis ce matin, la consultation chez le généraliste en France passe à 25 euros. La convention fixe pour 5 ans les honoraires des quelques 115 médecins libéraux français. L'augmentation de 2 euros par consultation est une première depuis 6 ans.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, ça beau être un week-end de 3 jours, eh bien, eux, ils travaillent, hein, ce sont les politiques, hein, puisqu'il ne reste plus qu'une semaine avant le second tour. Et donc, à gauche, Jean-Luc Mélenchon, après un silence d'anachorète, hein, a repris le chemin de la parole. D'abord sur YouTube vendredi, puis hier sur le plateau TF1, le leader de la France Insoumise a évoqué, je cite, « la terrible erreur d'un vote Front National », sans dire quel sera son vote. Il n'est toujours pas prêt à faire un smack à Emmanuel Macron et lui demande juste un tout petit peu d'amour, enfin à sa façon, Jean-Luc Mélenchon.
Au lieu de m'insulter, au lieu de tordre le bras de mes amis et de les maltraiter, pourquoi, par exemple, ne ferait-il pas un geste? Enfin, il pourrait regarder, Madame Le Pen, elle essaye au moins de parler aux insoumis. Bon, mais lui, il pourrait faire un geste, il pourrait leur dire, écoutez, je vous ai compris, comme il a l'habitude de le dire, je retire mon idée de réforme du code du travail. J'oublie ça, je le mets de côté pour que vous puissiez faire un mouvement vers moi. Monsieur Macron, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous contenter de venir et de dire je veux un vote d'adhésion. Et puis quoi encore? Non, nous n'adhérons pas à vos thèses. Il prend des risques en se comportant comme il le fait.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon hier soir sur TF1, Michel Urvoy. Alors depuis, on le sait, Emmanuel Macron a dit en meeting qu'il ne reviendrait pas sur son projet de réforme du code du travail. Mais quand il le dit, Jean-Luc Mélenchon, il sait très bien qu'Emmanuel Macron ne reviendra jamais. C'est une mesure phare de son programme.
Bien sûr. Mais enfin, personne n'a imaginé, je pense, que Emmanuel Macron allait revenir sur cette question-là ou sur d'autres. Tout simplement parce que d'abord, il y croit à cette proposition. Et deuxièmement, tout son projet est construit là-dessus. Enfin, là-dessus, c'est-à-dire sur une ligne dont il ne dérogera pas parce que il ne veut pas. S'il cède, s'il fait la moindre concession à la première occasion venue, son projet se détricote. Il ne tient pas jusqu'à son élection, enfin, ou jusqu'à
donc
son...
Donc il le sait très bien, ça, Jean-Luc Mélenchon,
mais
quand
bien
il
sûr,
l'annonce.
Mais bien sûr, c'est un vieux routier de la politique, et il le sait très bien. Donc, mais Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, il est dans une stratégie de conquête du pouvoir de l'opposition. Donc voilà, donc il a 2 coups d'avance, c'est comme ça qu'il faut lire sa déclaration.
Car une fois, c'est assez étonnant parce qu'on a vu, alors, Marine Le Pen a fait un clip, finalement a tourné un clip pour s'adresser aux insoumis directement, disons que finalement il y avait des points de convergence. Et aujourd'hui, avant la prise de parole d'Emmanuel Macron, il y a eu une lettre d'un insoumis disant pourquoi il votera Emmanuel Macron. C'est un électorat très précieux, mais comme on ne sait pas du tout où il va aller, ça semble quand même assez périlleux aujourd'hui, non?
Et puis d'ailleurs, personne ne peut dire où est-ce qu'il ira, parce qu'il y a des gens qui, honnêtement, font partie de la génération qui a déjà fait barrage en 2002, qui se reconnaît parfaitement dans les mots de Jean-Luc Mélenchon de 2002. Et à l'époque, il n'était pas dans ses pudeurs de gazelle, pour reprendre son expression. Il défendait très très bien l'idée que le Front républicain, on ne demande rien. C'est le contraire d'un deal politicien. On fait ça parce qu'on veut sauver l'essentiel de ses valeurs sans demander de contrepartie. C'est ce qui a changé malheureusement entre sa position de 2002 et d'aujourd'hui. Par contre, ce qu'il a mis sur Twitter, qui est plus cohérent, qui me paraît plus intéressant comme message à son électorat, c'est de rappeler quand même que dans cette élection, ceux qui sont contraints de voter pour Emmanuel Macron. Et on peut imaginer à quel point c'est douloureux quand on a voté Jean-Luc Mélenchon et quand on croit à son programme. Mais il y a une revanche, ça s'appelle les législatives. Donc voilà, on est obligé de faire barrage républicain.
Il en a parlé hier d'ailleurs. Il va prendre
ceux qui sont obligés et pour qui ça coûte le plus de voter Emmanuel Macron à cette élection ont une voie possible dans le fait de le priver de majorité en allant voter pour leurs idéaux législatives. C'est ce que commence à esquisser quand même Jean-Luc Mélenchon dans son propos, y compris sur Twitter. Et ça, c'est intéressant, ça, c'est politique.
Il l'a dit d'ailleurs hier, justement, juste sur TF1, pour dire qu'il allait soit se présenter soit à Lille, Toulouse ou Marseille, là où il est arrivé en tête, 3 villes. Justement, François Lorcival, juste pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne veut pas dire, ne veut pas prononcer, mais comme d'autres finalement, on l'a vu même chez les Républicains, certains disent on fait barrage au Front National, mais le nom d'Emmanuel Macron n'est pas prononcé.
Il n'est pas un barragiste.
Alors pourquoi ce nom, pourquoi on ne le prononce pas ni chez Laurent Wauquiez, ni chez Jean-Luc Mélenchon, ni même à la CGT par exemple, on ne le prononce pas?
Pour toutes les raisons que vient de donner Caroline Fourest. Vous remplacez Mélenchon par Fillon, vous avez les explications de ce qui se passe également à droite. Et Mélenchon, il a quand même un souvenir par rapport à 2002, c'est qu'il a déjà appelé à faire voter pour François Hollande en 2012. Il n'en a tiré aucun profit. Au contraire, il a été méprisé, hué, sifflé, etc. Et aujourd'hui, sa déclaration de tout à l'heure, elle est marquante pour toutes les raisons qu'a expliqué Michel Urvoy, mais pour un deuxième détail, c'est le fait qu'il ait admis publiquement que Marine Le Pen, elle au moins, s'adressait à la France insoumise. Mmh. C'est incroyable de la part de Mélenchon. Mais ça prouve aussi combien Marine Le Pen est entrée dans le système, c'est-à-dire dans le club.
Oui. Mais ça paraît étonnant, non, cette phrase, on voit Jean-Luc Mélenchon dit « elle au moins, elle s'est adressée aux insoumis ».
Eh ben oui.
Oui, quand on connaît ses engagements antifascistes depuis des années, c'est vrai que là, dans son vocabulaire, il y a des faiblesses, il y a des failles qui sont troublantes, qui sont inquiétantes et qui participent à ce barrage qui prend l'eau, à cette banalisation qui avance. Et donc, on dit souvent, le Front National a un peu changé, mais nous, qu'est-ce qu'on a changé par rapport à 2002? On a encaissé beaucoup de choses, qu'il explique. Mais quand même, c'est là où on se fait un peu peur. Parce que si tout le monde ne prend pas sa part, et si le barrage prend de l'eau de partout, rien n'est joué d'avance.
Michel, oui, juste un mot pour dire que je suis complètement d'accord avec Caroline. Les ambiguïtés de ceux qu'on attend contre le Front National, à mon avis, produisent plus d'effets que Nicolas Dupont-Aignan.
Julien Leclerc, justement, sur aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, sur ce barrage, on voit très bien, on en parlait tout à l'heure, c'est les législatives, finalement, qui jouent maintenant derrière, ça veut dire que ce second tour
C'est d'abord la présidentielle. Moi, j'ai pas un peu peur, j'ai hyper peur. J'habite à la campagne, il y a énormément d'abstentionnistes qui avaient voté Fillon ou qui avaient voté Mélenchon au premier tour, donc j'ai pas un peu peur, j'ai hyper peur, et je suis pas sûr que ça soit joué. Donc je pense qu'il faut aller voter. Je crois... Ce qui fait la particularité de Macron, c'est qu'il est ni à gauche ni à droite. Il a des valeurs fortes, sociales, sociétales. Il veut continuer à encourager la protection sociale des individus. Et en même temps, il est moderne sur ce que j'appellerais les nouveaux modèles, notamment économiques. Il veut supprimer le RSI.
Comprendre aussi que ça perturbe certaines personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de repères.
Parce qu'on en invente de nouveaux. Et c'est ce que les gens ont demandé en votant deux candidats qui, pour le coup, je suis d'accord, favorisaient l'explosion des deux partis majoritaires. Il veut une couverture sociale. Il veut l'assurance chômage pour les indépendants, qui sont une vraie catégorie de population en précarité. Oui, je comprends que Mélenchon soit un peu loin de ça.
Quand maintenant, vous entendez, Julien, juste Leclerc, juste quand Jean-Luc Mélenchon dit le choix se fait entre l'extrême droite et l'extrême finance. C'est ça les termes aujourd'hui.
C'est des grands mots aujourd'hui. La seule personne qui a des problèmes financiers qui est accusée de certaines malversations, c'est certainement pas Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Donc je pense que c'est un petit peu facile. Je pense aussi, et je suis convaincu de ça, et c'est là que je suis extrêmement surpris de la position de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des valeurs, à un moment donné, qui doivent être plus fortes qu'un désaccord sur un programme économique. Mélenchon s'est construit dans une opposition au Front National sur des valeurs humanistes. Je suis persuadé que c'est profondément humaniste. Je ne comprends pas son attitude aujourd'hui.
Michel Urvoy.
Juste un mot pour aller dans le sens de Julien Leclerc. Je suis extrêmement frappé par, d'abord, le risque d'abstention, d'une abstention sélective à l'égard d'Emmanuel Macron dans un certain nombre de milieux, et je suis extrêmement frappé, deuxièmement, par la mobilisation, en particulier dans le monde rural ou périurbain, en faveur de Marine Le Pen. Mais là, il n'y a aucun argument qui prend. La raison, la passion l'emporte sur la raison. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, vous pouvez développer tous les meilleurs aspects du programme Macron, ça ne changera rien. Ces gens iront voter Marine Le Pen.
Alors, dans un instant, on va parler de cette mobilisation ou non-mobilisation, justement, du 1er mai. L'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron accuse le Front National d'être le parti de l'anti-France. Le candidat En Marche a terminé son meeting à la Villette en reprenant cette expression chère au Front National. Emmanuel Macron promet de défendre le mariage pour tous parce que, dit-il, deux hommes qui s'aiment et qui ont des enfants, c'est aussi une famille. Marine Le Pen en appelle, elle, à faire barrage à la finance qui porte désormais un nom, Macron. Elle a fustigé de cette façon le candidat En Marche qu'elle considère comme un winner autoproclamé. Un meeting de la candidate Front National ce midi à Villepinte avec Nicolas Dupont-Aignan dans la salle. Les échauffourées en marge de la manifestation du 1er mai à Paris. Le bilan ce soir est passé à 6 policiers blessés, dont un qui souffre de graves brûlures. 5 personnes interpellées. Il y a également de gros dégâts matériels. Le ministre de l'Intérieur recense 142 000 manifestants en France, 280 000 selon la CGT. Le Hamas accepte un État palestinien limité aux frontières de 1967. Le mouvement palestinien modifie pour la première fois de son histoire son programme politique. Dans un texte en anglais, il insiste sur le caractère politique et non religieux de son conflit avec Israël. Et puis aux États-Unis, les négociateurs du Congrès américain se sont mis d'accord pour doper le budget de la défense jusqu'en septembre. C'est le souhait de Donald Trump. En revanche, pas un dollar de programme pour financer la construction d'un mur avec la frontière mexicaine.
France Info. 20h, 21h. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors aujourd'hui, 1er mai, la mobilisation n'a pas faibli. Hein, 400 000 personnes à Paris, 1 million dans toute la France, des syndicats unis pour dire non à la présence de Le Pen au second tour. Un cortège parisien qui... Ah ben non, attends, excusez-moi, je me suis trompé avec l'entre-deux-tours de 2002. En fait, là, c'est le 1er mai 2017. Voilà, c'est 142 000 manifestants dans toute la France, selon la police. 280 000 selon les organisations. Des syndicats fâchés empruntant différents parcours et des heurts dans la manifestation parisienne avec 6 policiers blessés. Contraste terrible, hein, 15 ans après. Le front républicain, on l'a dit, semble pulvérisé. Un front national normalisé. Il paraît que l'on ne peut pas comparer 2002 et 2017. Ce n'est pas faux puisque Le Pen-Fille fait un score plus important et malgré ça, moins de mobilisation. Par exemple, on a vu des syndicats appelant à faire barrage au Front National, d'autres ne donnent pas de consignes de vote. Karine Forest, finalement, est-ce que les syndicats sont à l'image de la population française? Ça veut dire le Front National s'est banalisé, tout simplement, et que même si on se mobilise contre pour les syndicats, ce n'est pas, voilà, c'est difficile aujourd'hui de mobiliser contre ce Front National.
Mais je crois que c'est compliqué pour tout le monde de trouver une réponse appropriée pour refaire barrage cette fois-ci. J'étais dans la rue en 2002, j'y étais pas là pour d'autres raisons. Je pense que ces formes même d'opposition ne sont plus adéquates. Donc c'est plus compliqué que simplement le fait que plus personne ne soit choqué par la présence du Front National au deuxième tour d'une élection. Il s'est passé beaucoup de choses. Le Front National lui aussi a réussi à duper beaucoup de monde et à changer de registre pour éviter ce genre de manifestations instinctives. Moi, je suis même presque, quand j'ai envie d'être optimiste, je me dis, on est encore un beau pays, on est encore un pays, après tout ce qu'on a traversé ces derniers mois, qui ne s'habitue pas tant que ça à la présence de Marine Le Pen au second tour d'une élection présidentielle. Mais on peut le voir à l'envers. On peut dire que si, on s'y est trop habitué. En tout cas, les syndicats, effectivement, ont eu des positions contrastées. La CGT n'a pas trop mal parlé, et puis la CFDT non plus. Et puis honnêtement, c'est plus là que se joue le barrage au Front National.
Mais c'est ça, Michel Hervois. Est-ce que finalement, cette mobilisation, est-ce que même dans la tête de certains, c'est se dire, est-ce que finalement, avec 7 millions de voix, est-ce qu'il y a encore. Est-ce qu'il faut encore un barrage?
Non, mais je pense qu'il y a, il y a deux explications très simples. La première, c'est que le score de Marine Le Pen est annoncé depuis un an. Et donc, il n'y a pas l'effet surprise, il n'y a pas l'effet colère qu'il y avait eu il y a 15 ans. Et la deuxième chose, c'est chaque organisation, enfin presque toutes les organisations, ont chez elles, à partir du moment où le Front National représente un quart ou davantage de l'opinion française, chaque organisation a en son sein une forte proportion de gens qui votent Front National. Quand on rencontre quelqu'un, quand on est dans un groupe, il y a des gens qui votent Front National. Bon, donc, dans les syndicats, c'est la même chose. Et ça crée un peu d'embarras, en plus chez certains que d'autres.
Puis il faut dire qu'il y a compétition entre les grandes centrales, CFDT qui est maintenant passé devant la CGT, donc naturellement, ils n'allaient pas défiler ensemble pour se féliciter les uns les autres. Et puis, il y a quand même eu un petit détail la semaine dernière. Les manifestations à la veille de ce week-end de lycéens. Ces manifestations de lycéens, les banderoles, c'était ni Marine ni Macron. Ça, c'est
ni
aussi...
Patron,
ni patron.
Oui, y compris devant le lycée Louis-le-Grand. On a senti les lycéens du lycée Louis-le-Grand très motivés.
Bon, ça, c'était quand même très, très nouveau. Très nouveau. Et aujourd'hui, évidemment, la CFDT ne peut pas manifester avec la CGT. Pourquoi? Parce que il y a un.
C'est les restes de la loi El Khomri.
Bien entendu. Et ça, les traces ne s'effacent pas comme ça. Surtout quand vous avez porte-parole de Madame El Khomri.
Il nous reste très peu de temps, donc Karine Forest, et après je voudrais qu'on entende.
Le plus grave, c'est ça, c'est cette génération, cette nouvelle génération de militants de gauche radicale qui renoue avec cette confusion. En mettant sur le même plan, finalement, le capitalisme, voire la flexi-sécurité et le fascisme. Et ça, quand on a un peu la mémoire de l'histoire, quand on a la mémoire des passerelles qui ont été faites dans les années 30 au nom de ce relativisme, de ces équivalences, de ce non-sens des priorités, c'est inquiétant pour la politisation de nouvelles générations.
Julien Leclerc, attendez, je voudrais juste qu'on entende. Julien Leclerc, vous, justement, cette mobilisation, quand on voit, c'est les restes de la loi El Khomri, parce qu'en fait, on voit des syndicats qui souhaitent faire barrage au Front National, mais qui partent dans des parcours complètement différents, etc. Donc on a vu une unité qui a totalement explosé.
C'est plein de choses, c'est l'absence de surprise, on l'a entendu tout à l'heure. C'est aussi évidemment le premier opposant de la CGT pendant les manifs contre le travail, c'était la CFDT. Il y a quand même eu leurs deux locaux qui ont été mystérieusement brûlés et saccagés. On se doute par qui. J'ai quand même, je voudrais dire, parce que je suis rentré assez, de façon assez virulente contre Philippe Martinez dans les manifs contre la loi travail. Pour la première fois, j'ai lu son interview aujourd'hui dans Le Parisien. J'ai trouvé qu'il disait des choses assez intéressantes, malgré tout, avec des belles valeurs derrière. Donc comme quoi, on peut se retrouver sur des choses. Je voudrais rebondir et terminer sur ce que disait Caroline Forest. Je crois que la France est un pays merveilleux. C'est ce que Macron essaye de véhiculer et de rappeler. Et c'est ce que Le Pen essaye d'éviter à tout prix.
Bon, bah écoutez, Julien Leclerc, en tout cas, voilà, je viens de me faire avoir sur le temps de parole. En tout cas, ce soir, voilà, merci beaucoup. Voilà, je précise votre dernier livre, L'homme qui ne voulait pas devenir président, c'est chez Intermède. Merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci. Car une fois, on vous retrouve dans Marianne de cette semaine. Michel, revois la une de West France.
Oh ben, je vais vous surprendre. Un 1er mai très politique, un papier de décodage autour du Front National.
Oui. Ne soyez pas, mais oui, ça va bientôt se terminer, vous savez. Ça se termine dimanche, hein, Michel.
Nous, c'est jeudi avec jeudi. Une très, très grande difficulté. On paraît après le débat et il sera rédigé avant.
Bon, à retrouver en tout cas. Là, il est temps pour nous de retrouver pour l'heure Mathieu Maestrachi. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le classico programme. Ce soir.
Alors, une émission 100% consacrée au match Nice-PSG d'hier soir, remporté 3-1 par les Niçois, qui prive sans doute les Parisiens de titre en Ligue 1 au profit de Monaco. On va en reparler, ça réagit aussi autour de cette table apparemment. Ah oui. Retour sur ce match où Nice a joué magnifiquement, où le Paris Saint-Germain a totalement craqué, sur un suspense global qui, malgré tout, un peu comme en politique, devrait durer encore quelques jours.
Quelques jours seulement, allez, le classico. Voilà, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.